これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gay sa voix.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Jason Tajous.
Et à la réalisation, évidemment, François Connac. Combien de fois dans l'existence partez-vous la fleur au fusil avec l'intention de vous rendre quelque part avant qu'un hasard, une rencontre, un imprévu, un continent qui se dresse devant votre caravelle sur la route des Indes ne vous rappelle que l'essentiel est de ne pas savoir où nous allons. Les vrais voyageurs, ce sont les vagabonds. Des vagabonds donc, qu'amusent tout ce qui change et tout ce qui passe. Des errants, dont le but n'est qu'un prétexte et dont la destination n'est pas le destin. Il est si rare et si décevant de trouver ce qu'on cherche. Mais il est tellement amusant de chercher sans savoir et de trouver sans s'y attendre. Bienvenue dans Le Voyageur et son ombre de Nietzsche, le bréviaire d'un nomadisme intelligent.
Bonjour Raphaël.
Il y a si longtemps que je ne t'ai pas entendu parler. Je voudrais donc t'en donner l'occasion.
On parle ? Où cela et qui ? Il me semble presque que je m'en entends parler moi-même, seulement avec une voix plus faible encore que n'est la mienne.
Ne te réjouis-tu pas d'avoir une occasion de parler ?
Par Dieu et toutes les choses auxquelles je ne crois pas, mon ombre parle. Je l'entends, mais je n'y crois pas.
Mettons que cela soit, et n'y réfléchissons pas davantage. En une heure, tout sera fini.
Un lit pour chaque ville. Je me souviens d'une nuit à Bergame. J'avais quitté la maison depuis 2 jours pour un voyage qui finalement a duré 4 ans. J'étais dans une taverne de la haute ville, à la table voisine d'un père et d'un fils qui se saoulait bruyamment pour se consoler de la mort de l'épouse et mère, ensevelie le matin même. Avec la fraternité humide des ivrognes, ils m'ont interrogé sur ma présence à cette terrasse et mes projets. Puis, avec une insistance pâteuse à laquelle j'ai fini par céder, ils ont décidé qu'ils allaient m'héberger. J'étais si fatiguée que j'ai eu à peine la force de tirer mes bottes et que j'ai dormi tout vêtue sur le lit de cette morte, dans l'odeur du papier d'Arménie et au milieu des couronnes de perles violettes qu'on n'avait pas pris le temps ou la peine d'enlever. En me réveillant au matin, au milieu de ces pompes funèbres et des odeurs de cierges dont 2 brûlaient encore, je ne savais plus très bien où j'étais. De la cuisine montaient des voix et une véhémente odeur de café. J'ai trouvé mes hôtes à peu près dessoulés. Père et fils avaient remis les costumes noirs et chemises blanches de la cérémonie de la veille. Ils étaient cravatés, rasés, tailladés de frais parce que les mains tremblaient encore un peu. Ils m'ont emmené en Vespa à la chorale d'un village voisin où ils chantaient tous les deux. Voix magnifique dans la tradition du chant choral italien. Père et fils rugissaient à s'en rompre la gorge et je savais qu'ils faisaient passer dans ces rengaines à la guimauve un peu de ce qu'il leur restait de chagrin. Quand je les ai remerciés et quittés, ils étaient cramoisis de frascati et semblaient délivrés de quelque chose. Je ne savais pas que j'avais rempli à mon insu cette fonction que certaines cultures très anciennes assignent à l'inconnu que l'on héberge une nuit et qui est présence prophylactique, exorcisme contre les mauvais sorts ou berger des ombres défuntes que parfois il emporte avec lui. Sur la route de Ljubljana, il m'a semblé entendre cette ombre me tenir un langage amical dans ce patois bergamasque, un des plus difficiles d'Italie auquel je ne comprenais rien, mais ce murmure était bienfaisant et je me disais que ce voyage ne pouvait commencer sous de meilleurs auspices.
Oh, c'est bien ça, c'est qui ?
C'est un texte de Nicolas Bouvier que j'ai trouvé dans Échappée belle et je me suis dit que Nicolas Bouvier étant un grand pérégrin, ça allait parfaitement et j'ai eu la chance de tomber sur ce texte qui fait mention du nombre qui l'accompagne sur son voyage.
Du nombre qui lui parle, effectivement. Alors, Le Voyageur et son ombre de Nietzsche, qui est le texte dont nous allons, enfin, à l'intérieur duquel on va se promener aujourd'hui, Le Voyageur et son ombre de Nietzsche est un ajout, en fait, à Humain trop humain. C'est-à-dire un livre de la fin des années 70. Il faut dire un tout petit mot ici du style de Nietzsche. Ça n'est pas un Nietzsche adolescent, mais c'est un Nietzsche jeune. Et c'est un Nietzsche dont le style enlevé l'emprunte davantage à Voltaire, je crois, qu'à lui-même. D'ailleurs, Humain trop humain est dédié à Voltaire. C'est un grand livre anti-rousseauiste dédié à Voltaire. Nietzsche repérant d'ailleurs dans les Lumières, triant ici à ses yeux, en tout cas le bon grain de livret. Mais c'est un texte qui commence et qui s'achève sur le dialogue d'un homme avec son ombre. Il faudra revenir, on le fera un peu plus tard si vous en êtes d'accord, sur la symbolique de l'ombre chez Nietzsche, ce que ça signifie, ce que ça veut dire chez cet homme qui vante l'heure du grand midi, c'est-à-dire l'heure de l'ombre la plus courte.
D'un voyageur particulièrement.
Exactement. Nietzsche est un voyageur, il a voyagé toute sa vie, il ne tenait pas en place. Bon, il est né à Röcken, il a ensuite fait quelques études à Naumbourg, puis il est devenu lycéen à Pforta, puis à Bonn, puis à Bâle, d'où il se rendait régulièrement à Tribschen, rendre visite au Wagner. Puis pendant la guerre, Wissembourg, Strasbourg, Lunéville, Rezonville, Sedan, Nancy, puis après Lugano, Mannheim, Nuremberg, Steinabad, Menton, Sorrente, Monaco, Nice, Gênes, Hambourg. À chaque fois, il mangeait juste un morceau de gâteau et une tasse de cacao. Hein. Il a sillonné le Jura, il a connu son premier chagrin à Bayreuth, il a vu la lumière en Engadine, il est allé à Venise, à Messine, à Grunewald, à Tautenbourg, à Leipzig, à Weimar, bien sûr. C'est sur les pentes, d'ailleurs, de Weimar qu'il est mort aphasique, dans une propriété qui jouxtait la villa de Goethe, avant d'être enterré dans le cimetière paroissial, à côté de son frère et de ses parents, contre le mur de l'église où il a été baptisé, ce qui est un comble évidemment pour le prophète de l'éternel retour. Mais ce qui est important ici, c'est d'abord que Nietzsche était voyageur, mais surtout que les voyages de Nietzsche sont d'abord des voyages mentaux. C'est une façon qu'il a d'appréhender le monde. Il aborde le monde en voyageur. Et de ce point de vue, le nomadisme mental de Nietzsche s'accommode tout à fait, bon, d'un nomadisme véritable au sens où il va d'une ville à l'autre, mais un nomadisme qui est tempéré par le fait que, quel que soit l'endroit où il arrive, il se réfugie immédiatement dans une chambre avec une tasse de thé tiède ou bien de cacao et il se met à écrire. Oui, Paola.
Mais alors on pourrait penser à la phrase de Pessoa qui dit « À quoi bon voyager d'un pays à l'autre quand on peut rester chez soi dans sa chambre à voyager mentalement par l'esprit, par les songes, par les rêves ?»
Oui, mais Nietzsche fait les deux. Il fait les deux. Sa biographie, c'est la biographie d'un nomade. Ce sont les aventures d'un nomade, ce sont les tribulations d'un nomade en terre européenne, puisqu'il n'est pas sorti d'Europe, mais ce sont les tribulations d'un nomade en terre européenne. De ce point de vue, d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on appelle un esprit européen. Il faudra qu'on parle de Nietzsche et de l'Europe, c'est très important. On l'a déjà fait un peu, mais pas assez. Donc ce sont les tribulations d'un nomade en terre européenne, et dans le même temps, c'est un nomade qui est un ermite. C'est l'ermite nomade. Donc où qu'il aille, il se conduit en ermite. Il voyage et en même temps, il sait ne pas bouger quand il voyage, à l'exception de ces fameuses balades, de ces fameuses promenades de Nietzsche, notamment celle au terme de laquelle il fait à Sils Maria la découverte de ce qu'il appellera, à la suite d'ailleurs des Grecs, l'éternel retour. Mais ce qui compte ici, me semble-t-il, c'est, et je le dis à la fois au sens métaphorique du terme et au sens réel, le fait que c'est un nomade, justement, c'est-à-dire un vagabond. Nietzsche est un vagabond. C'est-à-dire que c'est pas un voyageur, au sens où le voyage se propose d'aller d'un point à l'autre. Nietzsche est un errant. Ses livres sont des errances, sa biographie est une errance, et il ne faut pas le dire en un sens désolé, au sens où l'on pourrait regretter, au fond, l'errance comme le propre d'un individu qui ne sait pas où il est, où il habite, où il vit, etc. Non, Nietzsche est un escargot, il habite où il se trouve, il porte sa maison avec lui, il porte ses intuitions avec lui, mais c'est un errant joyeux, c'est-à-dire que c'est un errant qui théorise la supériorité de l'errance sur le voyage. Il faut, quand on voyage, cultiver en nous l'art de ne pas savoir où nous allons, quitte d'ailleurs à changer de route, à se laisser guider par une autre route. Vous vous souvenez quand on avait parlé d'Aurélien, d'Aragon à un moment, Aurélien qui est un nonchalant, qui traîne dans Paris, qui n'a rien à faire, qui a 3 sous pour vivre et qui par conséquent ne se soucie pas de gagner sa vie. Aurélien, de temps en temps, quand il s'ennuie vraiment, il va d'un jupon à l'autre, il regarde une fille qu'il emmène dans une rue et puis hop, il envoie une autre et il va dans une autre rue et c'est comme ça qu'il... Sa trajectoire quotidienne est la trajectoire erratique d'un homme qui suit les jupons comme il aurait pu suivre autre chose. Et ça, c'est très important. Nietzsche est un philosophe de la sérendipité, de l'art de trouver par hasard ce qu'on ne cherchait pas. La lithographie, la pénicilline, l'Amérique, le post-it ou le Viagra sont des inventions qu'on n'avait pas prévu de trouver et qu'on a trouvées par hasard à l'occasion d'autre chose. Alors chez Nietzsche, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne une phrase sur le style cherché. Il dit « le style trouvé est une offense pour l'ami du style cherché. Ou bien, une promesse solennelle qu'il fait, « Je ne veux plus lire un auteur chez qui l'on remarque qu'il a voulu faire un livre, je ne lirai plus que ceux dont les idées devinrent inopinément un livre. »
Oui. On pourrait lui conseiller La Bruyère. Enfin, il l'a sûrement lu, mais puisqu'on...
On pourrait lui conseiller La Bruyère à ceci près. Enfin, il n'y a pas besoin parce qu'il l'a vraiment lu.
Oui.
Mais on pourrait lui conseiller La Bruyère à cette nuance près que La Bruyère a voulu faire un livre. Il n'a même fait que cela, à la façon de Montaigne d'ailleurs. C'est-à-dire ce sont des êtres dont la pensée donne le sentiment de errer, mais qui s'inscrit tout entière dans une seule œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une œuvre. Nietzsche, c'est différent. Nietzsche, il y a toute une série de livres avec un style mobile, un style changeant. C'est pas quelqu'un qui a retravaillé en permanence la même œuvre, c'est quelqu'un qui a fait évoluer ses intuitions en essayant de prendre garde au danger suprême d'une intuition, c'est-à-dire sa déréliction, son dévoiement en vérité immortelle, impérissable. Rien n'est pire qu'une vérité immortelle et impérissable, c'est l'équivalent du fait d'arriver quelque part quand on voyage, c'est l'équivalent du fait d'arriver là où on veut aller quand on voyage. Cette théorie de l'errance et du vagabondage est à entendre aussi comme un éloge de l'œuvre par-delà les intentions de son auteur. Vous voyez, l'exercice auquel nous nous livrons tous les dimanches, Paola, est un exercice de commentaire amoureux. On essaie de prendre le texte, de nous en tenir au texte lui-même, de ne pas truffer le texte d'informations contextuelles, dans la mesure du possible, de s'en tenir à la lettre du texte. Et d'essayer de trouver des liens, des collusions inattendues entre ce texte et d'autres textes, ou bien à l'intérieur même du texte, entre un moment du texte et un autre moment du texte. À ce travail-là, on pourrait objecter l'argument selon lequel peut-être l'auteur n'a pas voulu dire tout ce qu'on fait dire au texte. Mais c'est un faux argument si l'on suit la ligne nietzschéenne de l'errance. Il ne s'agit pas pour nous de restituer les intentions de l'auteur, c'est-à-dire d'enchâsser un livre ou de réduire un livre à l'intention aboutie de son auteur, auquel cas les frères Karamazov ne seraient, au dire de Dostoïevski, qu'un livre sur la religion, alors que c'est beaucoup plus que cela. C'est une façon pour nous d'être fidèles sans être identiques au texte, c'est-à-dire de nous attacher à ce qui, dans le texte, a peut-être échappé à l'auteur, mais n'en est pas moins riche et n'en est pas moins fécond. Eh bien, c'est une logique, c'est une démarche, c'est une méthode herméneutique, une méthode d'interprétation qu'on met en œuvre depuis que le Gai Savoir, notre émission, existe, qui est à la fois extrêmement attentive au texte et dans le même temps assez insoucieuse de la façon, enfin qui ne se soucie guère en tout cas de la façon dont l'auteur lui-même a voulu dire les choses. Il faut lire en errant, c'est-à-dire se promener dans un livre, c'est la meilleure façon que l'on a, enfin, que je connaisse en tout cas, d'en faire jaillir les pépites, oui.
Je pensais à la distinction entre le voyageur et l'errance, entre le voyage et l'errance plutôt, tient-elle seulement au fait de ne pas savoir où on va quand on est errant et d'avoir un but lorsqu'on est voyageur, ou est-ce qu'il y a une différence plutôt dans la temporalité aussi, dans la façon de vivre le voyage?
Les routes qui ne promettent pas le chemin de leur destination sont les routes aimées, c'est René Char qui le dit. Chez Nietzsche, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci.
Mes pensées, dit le voyageur à son ombre, doivent m'indiquer où j'en suis, non pas me révéler où je vais. J'aime l'ignorance de l'avenir et ne veux succomber ni à l'impatience ni à la saveur anticipée des choses promises.
En d'autres termes, le goût de l'errance est un goût du présent, contre sa dilution dans la promesse d'arriver. Et le goût de l'errance est conforme à la critique nietzschéenne du libre arbitre, c'est-à-dire à la critique nietzschéenne de cette illusion de la maîtrise qui donne à un homme le sentiment qu'il est en contrôle de son destin, de ses intentions, voire même de ses pensées, sinon de ses désirs. Quiconque, ajoute Nietzsche, c'est dans les considérations inactuelles, quiconque aspire à quelque liberté de pensée, doit se priver pour un long temps du droit de se sentir autre chose qu'un errant sur la terre. Je ne dis pas un voyageur, car l'homme qui passe se propose un but final. Or, un tel but n'existe pas. L'errant doit bien observer, tenir ses yeux bien ouverts sur le train du monde. Il doit donc interdire à son cœur toute attache un peu forte aux choses particulières et toujours maintenir en lui cette humeur de vagabond qu'amuse tout ce qui change et passe. Vous voyez, l'importance de l'errance par rapport au voyage. À quel point l'errance, au fond, l'errance, c'est un mélange de distraction et de vigilance. Il faut être distrait de son but, ou en tout cas tenir le but du voyage pour un prétexte et non un but. Il faut être distrait de son but pour être attentif aux merveilles qui le jalonnent. Vous savez, je crois que c'est dans Escroc mais pas trop, il me semble, de Woody Allen. Enfin, Woody Allen est un super loser, c'est une sorte de Virgil Starkwell, c'est celui de Prends l'oseille et tire-toi. Il est marié, enfin, il vit maritalement avec sa femme qui fait d'excellents cookies. Et Woody Allen a l'idée géniale de creuser un tunnel pour arriver dans une banque. Donc ils achètent une petite échoppe, un petit étal juste à côté de la banque en question. Donc il jouxte la banque et madame, comme une couverture, fait des cookies pendant que monsieur, flanqué de trois autres losers, creuse un tunnel avec une cuillère, une fourchette ou n'importe quoi pour essayer d'arriver au milieu de la banque. Et évidemment, le tunnel, c'est une catastrophe, rien ne marche, rien ne tient, ça leur tombe sur la gueule, ils n'y arrivent pas du tout. En revanche, les cookies, eux, ont un grand succès et ils deviennent milliardaires grâce au magasin de cookies parce qu'elle fait d'excellents cookies. C'est cette histoire-là, si vous voulez, que raconte Nietzsche en permanence. Vous croyez aller quelque part, vous croyez qu'on va vous parler de quelque chose, et en réalité, le vrai sujet n'est pas celui-là. Et en vérité, on vous balade, littéralement. On vous balade. Il faut se savoir balader entre vigilance et distraction. De là, par exemple, chez Nietzsche, son rapport à l'idée perdue. Écoutez-le, c'est dans le Gai Savoir, tiens. Au paragraphe 298, je le dis pour nos auditeurs qui voudraient s'y référer et se plonger dans ce beau livre à nouveau. Nietzsche.
Je saisis au vol cette compréhension et je pris hâtivement les premiers mauvais termes venus pour la retenir. Et voici qu'elle est morte de la sécheresse de ses mots. Et elle y reste accrochée, ballottante. Et c'est à peine si je sais, quand je la considère, comment j'avais pu avoir pareille chance à prendre cet oiseau.
Voyez, Nietzsche est très attentif au syndrome du voyageur qui cherche une idée, par exemple du type qui prend le train pour écrire, qui ne peut écrire correctement qu'en train, et qui, au moment d'écrire, est constamment interrompu par la fille qui dit le message d'accueil en trois langues. Et lui est là, devant son ordinateur, dans le train, il essaie de noter quelque chose qu'il a en tête, et la dame fait cette annonce inutile du genre « vous êtes dans le train pour Lyon », et elle le dit en trois langues, quatre langues, ça sert à rien, et il faut subir ça, hein, ou le train pour Bruxelles peut-être, il faut subir ça, il faut entendre cela sans que l'attention soit dissipée. Alors, le type se cherche frénétiquement des boules quies, essaie de se les mettre dans les oreilles, trop tard, l'idée est morte, l'idée est perdue. Il y a deux façons pour une idée de mourir. Chez Nietzsche, il y a le risque qu'elle court de devenir une vérité, en particulier quand elle est écrite. « Hélas, mes pensées, dit-il à la fin de Par-delà bien et mal, qu'êtes-vous devenu maintenant que vous voilà écrite et peinte ?» Donc c'est le moment où les idées meurent de leur belle mort, c'est-à-dire mutent en vérité, ce qui les rend très ennuyeuses. Et puis, il y a aussi l'idée perdue. L'idée dont, quand on l'a, on se dit « elle est tellement évidente que je la noterai plus tard », et comme par hasard, c'est là qu'on a un accès d'amnésie et qu'on perd l'idée. Il y a un comique américain, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Mitch Hedberg. Et Mitch Hedberg dit à un moment, je le dis en anglais, « Sometimes, in the middle of the night, I think of something that's funny. Then I go get a pen and I write it down. Or, if the pen's too far away, I have to convince myself that what I thought of ain't funny. » En d'autres termes, quelquefois, au milieu de la nuit, je pense à un truc drôle, je vais me chercher un stylo pour l'écrire. Mais si le stylo est trop loin, il faut que je me convainque que ce à quoi je pensais n'était pas si drôle. Façon pour lui, justement, de faire son deuil de cette idée, de cette intuition, alors de le prendre à la rigolade. Mais c'est une vraie tragédie, idée perdue, oui.
Oui, mais c'est comme l'anecdote avec Tom Waits, qui raconte que Tom Waits, à chaque fois, dernièrement, ses meilleures idées de chansons, il ne les a pas écrites parce qu'elles sont venues alors qu'il est en train de conduire sur l'autoroute et qu'il est impossible pour lui de les noter ou de s'en souvenir et qu'il en veut terriblement à l'inspiration. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de l'inspiration qui s'est pointée au mauvais moment.
Exactement, voilà. L'inspiration ne vous demande pas vos préférences. L'inspiration arrive parfois au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où l'on est requis par tout ce qui relève du voyage et non plus de l'errance, c'est-à-dire par tout ce qui relève de la construction d'une vie et de l'ambition d'y réussir, par tout ce qui relève des préoccupations quotidiennes qui sont exactement ce qu'on oublie le lendemain, mais à quoi on sacrifie ce qui est inoubliable, c'est-à-dire l'intuition qui soudain a choisi arbitrairement de voir le jour à l'occasion de l'errance du moment. Le voyageur et son ombre encore, Nietzsche. On entend, on ne cherche pas. On prend, On ne se demande pas qui donne. Tel un éclair, la pensée jaillit soudain avec une nécessité absolue. Les choses elles-mêmes viennent à nous. Vous voyez, Paola, les choses elles-mêmes viennent à nous. Errer, c'est se mettre dans cette disposition hospitalière de l'esprit qui donne aux choses la liberté de venir jusqu'à nous. C'est conjurer cette modalité vorace du rapport au monde qui, à force de vouloir s'approprier le réel, finit par ne tenir dans ses doigts que des fruits secs. Il faut errer et oublier et s'oublier soi-même pour se rendre vigilant et attentif aux intuitions qui nous viennent. Le dispositif nietzschéen est en définitive un dispositif, je m'en excuse auprès de lui, un dispositif augustinien. C'est saint Augustin et Pascal à sa suite qui, les premiers, ont pensé cette disposition de l'esprit. Pourquoi ? Parce que cette disposition de l'esprit que Nietzsche traduit en termes laïques, c'est-à-dire en termes d'impressions, d'idées, d'intuitions qui nous viennent au hasard d'un moment, etc., ce dispositif est parfaitement adapté à l'exercice de la foi qui se ou d'un individu croyant qui se sent visité par la parole de Dieu quand il a fait le vide en lui-même. C'est le même désir, c'est la même démarche. Il y a une communauté ici d'intentions, entre guillemets, dans ce refus des intentions, c'est-à-dire dans le refus de tout ce qui, dans la vie quotidienne, recouvre ce qu'on est capable de percevoir, de ce qu'on veut voir, de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, c'est tout ce que la volonté ou l'illusion de la volonté recouvre dans l'existence. Ce sont ces êtres qui passent leur vie comme des machines en définitive ou des machines décisionnelles avant de s'apercevoir à l'heure de mourir qu'ils auraient bien voulu être des artistes. Au fond, Nietzsche, Augustin, Pascal ne racontent rien d'autre.
J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir et vivre comme un millionnaire. Et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste.
Cette différence entre le voyage et l'errance, c'est celle que, par exemple, Jean Kelevitch extrapole et pose sur la différence entre l'humour et l'ironie.
Exactement. C'est exactement ça. Exactement. L'ironie a une intention. L'ironie est portée par une intention. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure façon dont Nietzsche est anti-platonicien. Nietzsche prétend construire un platonisme inversé. Sans voir, à mon sens, j'ai jamais compris ça. Peut-être d'éminents nietzschéens saurons-nous nous expliquer ce paradoxe. Sans voir, enfin ce paradoxe évident, quoi, grossier, sans voir, à mon sens, que vouloir construire un platonisme inversé, c'est être platonicien deux fois. À la fois par le refus de Platon et par l'ambition de construire un équivalent qui soit le contraire. Enfin, Nietzsche et Platon, si vous voulez, si Nietzsche construit un platonisme inversé, Nietzsche et Platon se ressemblent autant que le pôle Nord et le pôle Sud. Donc ce sont des antipodes, mais enfin bon, il y fait la même température, à peu près, quoi. Là où Nietzsche est vraiment, je crois, très puissamment anti-platonicien, c'est un peu à la façon de Diderot qui, dans le Neveu de Rameau, construit un dialogue qui ne se donne aucun but, qui ne se donne aucune destination, et ce faisant, prend le contre-pied de l'ambition socratique d'une construction, d'une cause commune dans le dialogue qu'on établit avec un disciple, en vue de la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une destination dans les dialogues de Platon, il faut atteindre la vérité. Et à mon sens, les plus grands dialogues de Platon sont les dialogues dits aporétiques, c'est-à-dire les dialogues où l'on ne parvient pas à la vérité à laquelle on prétend parvenir au début même du dialogue. Vous voyez, alors que chez Diderot, avec Rameau, on va ici, là, c'est n'importe quoi.
Avec Jacques le Fataliste.
Aussi. Avec Jacques le Fataliste. Alors Jacques le Fataliste met en scène cela, c'est-à-dire que Jacques le Fataliste se moque en plus du finalisme en montrant que ce finalisme n'a aucun sens et que, en définitive, rien n'est écrit, même si on ne peut pas prouver le contraire. Du coup, là où Nietzsche est vraiment très anti-platonicien, c'est que l'ironie socratique a pour effet de défermer les yeux de son interlocuteur, de l'ouvrir sur la possibilité de comprendre que ce qu'il tenait pour des convictions n'était en fait que des opinions et qu'il faut donner à ces opinions la consistance d'une vérité, ou en tout cas d'une opinion correcte. Bon, d'une opinion orthos, quoi, d'une opinion droite, rectifiée, correcte. Bien. Alors, l'ironie socratique est délicieuse, mais elle est, en un sens, lestée par le but de s'approcher de la vérité. Elle est contaminée par cela, en un sens. Alors que l'humour n'a pas de but, ne se donne aucun but. Et vous avez tout à fait raison de rappeler que, en cela, et ça lui plairait pas de l'entendre, mais c'est comme ça, Jean Kelevitch est profondément nietzschien. Écoutez ce passage que Jean Kelevitch consacre à la différence entre l'humour et l'ironie, à la faveur, comme par hasard, de l'examen de la situation d'Ulysse, dont Jean Kelevitch pointe à bon droit que, tant qu'il n'est pas à Ithaque, il a le désir d'y être, mais enfin, le jour où il arrive, et surtout le lendemain matin, ben, il s'ennuie un peu. Alors, que dit Jean Kelevitch ici ?
La faiblesse feinte, les haillons d'Ulysse, les ruses nocturnes de Pénélope ne sont que les alliés de la force et du bon droit. Car l'ironie est l'arme du fort, la patience d'un dieu déguisé en mendiant. Le prince, bafoué, spolié, attend son heure en toute confiance, elle ne tardera pas à venir. Mais l'humour, qui n'a aucune royauté à rétablir, aucun trône à restaurer, aucun titre de propriété à faire valoir, ne cache pas d'épée dans les plis de sa tunique. Sa fonction n'est pas de restaurer le statu quo d'une justice close, ni d'opposer une force à la force, mais plutôt de substituer au triomphe des triomphants le doute et la précarité, de tordre le cou à l'éloquence et à la bonne conscience un peu bourgeoise des vainqueurs. Ulysse, après tant d'aventures et de pérégrinations, rentre pour s'installer dans ses meubles jusqu'à la fin de ses jours. Mais le vagabond de l'humour restera éternellement en état de vagabondage. Il n'est pas le roitelet de son joli royaume. Il est le voyageur d'une errance infinie. L'errance, ce fut longtemps la spécialité des Juifs.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur. Quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue dans le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Le texte de Jean Kelevitch se finit sur l'allusion aux Juifs errants. Oui. Dont, si mon souvenir est bon, mais je demande vérification hein, et un peu d'indulgence, mais si mon souvenir est bon, Nietzsche lui-même fait mention des Juifs errants dans le cas Wagner. Il prend la défense des Juifs errants et du Juif errant de Goethe.
J'ai honte de vous dire que j'en sais rien. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. C'est comme ça.
Mais en tout cas, ouais. Tout ça pour dire, après tout, c'était un peu inutile. Donc, cette référence, tout ça pour dire que, évidemment, on ne peut pas ne pas penser au juif errant.
Oui, c'est le juif errant, c'est-à-dire c'est celui qui, parce qu'il s'est mal conduit sur le chemin du calvaire christique, se voit contraint de rester en vie jusqu'au retour du Messie, à Ahasvérus. Or, pour Jean Kelevitch, il y a un lien ontologique hein, entre l'errance et le judaïsme.
Et l'humour.
Et l'humour, errance, judaïsme et humour, puisque c'est l'arme, du juif, l'arme qu'il écrit des deux manières, hein, c'est l'arme du juif, puisqu'on rit aux larmes et on s'en sert comme d'une arme, et puis ça vient d'une douleur supérieure qui n'a que l'humour pour survivre aux maux qu'elle a subis, mais il n'y a ici aucune différence. Entre la différence justement que fait Nietzsche entre le voyage et l'errance et la distinction que Jean Kelevitch opère entre l'humour et l'ironie. La supériorité de l'humour sur l'ironie, c'est que l'humour n'a pas de but. Nietzsche et Jean Kelevitch sont ici les déconstructeurs d'une finalité, attention, d'une finalité ordonnée par un but précis. Jean Kelevitch est plus sensible que Nietzsche à l'idée de finalité, mais c'est une finalité ouverte, façon Bergson. Nietzsche détruit complètement l'idée de finalité, justement, en ouvrant, du coup, la conscience, la perception, le monde et l'intelligence à ce qu'elle ne s'attendait pas à entendre, à recevoir, c'est-à-dire en l'ouvrant à la merveille possible d'un monde qui n'est pas endeuillé, qui n'est pas souillé, qui n'est pas recouvert par le filtre de ce que j'y cherche ou de ce que je veux y voir. Ce que j'y cherche n'est qu'un prétexte. Et il faut bien comprendre ici que ce n'est pas une coquetterie, le côté « je suis un errant », voyez, « je suis un vagabond », bon. Ce n'est pas une coquetterie, ce n'est pas une coquetterie de la pensée, c'est la façon qu'ils ont d'être aussi fidèles que possible à l'idée qu'ils se font de la vie elle-même. Or, l'idée que Nietzsche se fait de la vie elle-même lui vient de Schopenhauer. Écoutez, pour la plupart des hommes, c'est Schopenhauer qui le dit, donc il est plus pessimiste, mais vous allez voir comme ça peut se, comme ça se ressemble, comme Schopenhauer a nourri Nietzsche. Pour la plupart des hommes, la vie n'est qu'un combat perpétuel pour l'existence même, avec la certitude d'être vaincu. Et ce qui leur fait endurer cette lutte avec ces angoisses, ce n'est pas tant l'amour de la vie que la peur de la mort, qui pourtant est là, quelque part, cachée, prête à paraître à tout instant. La vie elle-même est une mer pleine d'écueils et de gouffres. L'homme, à force de prudence et de soins, les évite. Et c'est pourtant que, vint-il à bout par son énergie et son art de se glisser entre eux, il ne fait ainsi que s'avancer peu à peu vers le grand, le total, l'inévitable et l'irrémédiable naufrage. Qu'il a le cap sur le lieu de sa perte, sur la mort. Voilà le terme dernier de ce pénible voyage, plus redoutable à ses yeux que tant d'écueils jusque-là évités. Schopenhauer fait si grand cas de la perspective d'avoir à mourir, son pessimisme fait tant d'importance, accorde tant d'importance à cela, qu'il ne peut pas s'empêcher de voir la mort comme la destination de la vie. Mais le fait que nous soyons mortels, certes, permet de penser la mort comme la destination de la vie, mais c'est une destination non volontaire et pour cause. C'est surtout la condition de la vie. Notre vie est une errance parce que nous sommes appelés à mourir. C'est parce que nous avons pour seule destination la mort que notre vie est une errance insensée sous un ciel vide. C'est pour cette raison-là. Donc, c'est le fait. Nietzsche, Jean Kelevitch, Schopenhauer, dans une moindre mesure, sont des grands convertisseurs de notre mortalité en intelligence, plus qu'en intelligence, en disponibilité. C'est-à-dire qu'ils retiennent tous de la mort le paradoxe selon lequel la mort est absolument prévisible et totalement surprenante, et ils essaient d'incorporer ce paradoxe à toutes les rencontres de l'existence. C'est-à-dire que ce à quoi on peut s'attendre est surprenant quand ça arrive, est surprenant en soi, parce qu'on a la disposition d'esprit mortel qui nous rend attentifs à ce qu'on ne cherchait pas. Et c'est cette disposition de l'esprit qui fait le fond hein, du voyageur et son ombre.
À vous écouter et en entendant les textes et en relisant les textes de Nietzsche dans Le Voyageur et son ombre, ça donne envie et c'est pour ça qu'en fait j'avais eu le plaisir et le désir de commencer par un texte d'un écrivain comme Nicolas Bouvier, c'est que ça donne envie de relire ces écrivains errants, voyageurs, tels que Bouvier, Blaise Cendrars, ou, et alors j'ai l'impression de citer que des Suisses, c'est étrange, Nicolas Bouvier, Blaise Cendrars, ou Singria, par exemple, qui dira, la phrase m'est revenue en écoutant le texte de Schopenhauer, Singria, qui disait « Le bitume est exquis ». Et je trouvais ce mot très approprié, ce mot d'esprit très approprié.
Et écoutez Virginia Woolf dans un flux de conscience qui concerne Peter Walsh dans Mrs. Dalloway. Donc pour mémoire, hein, Peter Walsh était l'amoureux transi de Mrs. Dalloway quand elle avait 18 ans. Et c'est un grand rêveur, Peter Walsh, à peu près autant que Septimus. Écoutez ce qu'il dit, parce qu'on est dans la conscience même de Peter Walsh.
Vision du promeneur solitaire. Visions qui sont pour lui de grandes cornes d'abondance pleines de fruits. Le murmure des sirènes qui chevauchent les vagues de la mer verte. Des gerbes de roses qu'on lui lance au visage. Les pâles figures que, pour les étreindre, les pêcheurs cherchent dans les flots. Visions qui sans cesse flottent devant le réel, l'entourent, le cachent. Qui suivent le promeneur solitaire, s'emparent de lui, lui enlève le goût de la terre, le désir de rentrer chez lui et lui donne en échange une paix profonde, comme si, c'est ce qu'il pense en avançant le long de l'allée de la forêt, toute cette fièvre de la vie était la simplicité même, comme si ces myriades de choses ne faisaient au fond qu'une seule chose et que cette figure faite de ciel et de branches se fût élevée de la mer agitée de la vie. Il est âgé, il a plus de 50 ans, forme née de l'écume des vagues pour répandre de ses mains magnifiques la pitié, la bonté, le pardon. Vision. Le promeneur solitaire est bientôt sorti du bois. Et là-bas, à la porte, abritant ses yeux de ses mains levées, peut-être pour le voir revenir, son tablier blanc soulevé par le vent, se tient une femme âgée qui semble, si puissante est cette habitude, chercher dans le désert un fils perdu, un cavalier abattu, qui semble la figure de la mère dont les fils ont été tués dans les batailles du monde. Et comme le promeneur solitaire avance dans la rue du village où les femmes tricotent et où les hommes bêchent leur jardin, le soir semble enchanté. Les êtres sont tranquilles, comme si quelque destinée solennelle, connue d'eux, attendue sans crainte, allait venir les rouler au néant. Dans la maison, parmi les choses habituelles, le buffet, la table, le bord de la fenêtre avec ses géraniums, la silhouette de l'hôtesse qui se penche pour enlever la nappe s'adoucit tout à coup dans la lumière et devient une forme adorable que le souvenir du froid contact humain empêche seul d'étreindre. Elle enlève la marmelade, elle l'enferme dans le buffet. « Rien de plus ce soir, monsieur ?» Mais à qui répondons le promeneur solitaire ? Ainsi tricotait la nurse âgée près du bébé endormi dans Regent's Park. Ainsi ronflait Peter Walsh. Il s'éveilla, très brusquement, se disant à lui-même « la mort de l'âme ».
Qui répond donc le promeneur solitaire ? Moi, j'ai envie de penser que Virginia Woolf a lu Le Voyageur et son ombre, parce que le type s'interroge en permanence, mais qui me parle ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et alors, tantôt, c'est l'ombre, d'ailleurs, qui questionne, mais qui me parle à moi ? Donc, à qui répond donc le promeneur solitaire ? Ce dialogue avec lui-même qui n'est pas orienté par une destination est un dialogue avec soi-même qui, plus il se développe, plus il flatte en nous, plus il développe en nous l'aptitude à sentir autre chose que nous. C'est-à-dire l'aptitude à sentir le monde séparément, non seulement du besoin que j'en ai, mais surtout des intentions que j'y ai déposées. On a déjà parlé de l'ivresse dans Le Gai Savoir, comme d'une modalité d'appréhension du monde plus fine. Plus ouverte, plus disponible. L'ivrogne, c'est celui qui fait attention à ce que nous négligeons ordinairement, tout à notre sobriété que nous prenons indûment pour de la lucidité. Le voyageur, l'errant, c'est pareil. L'errant, c'est celui qui est attentif à ce qu'il croise, parce qu'il ne fait pas de ce qu'il croise le moyen de parvenir à l'endroit qu'il s'est donné pour but, parce qu'il se souvient que cet endroit-là n'est que le prétexte à l'errance qui lui ouvre l'âme, le cœur et le corps à l'ensemble du monde et surtout au monde qu'il n'est pas lui-même et qui n'est pas là pour lui.
Un petit peu comme dans ce film de Pier Paolo Pasolini, Uccellacci et Uccellini, des oiseaux petits et gros, où c'est Toto, l'acteur italien très connu, et Ninetto Davoli, qui partent, on ne sait pas, comme ça, un matin, sur la route dans les banlieues de Rome. Ils partent marcher tous les deux, ils sont père et fils. On ne sait pas, c'est pour insister à un enterrement, mais vraiment, ce n'est pas le but, quoi. Et ils rencontrent en chemin, ils rencontrent un corbeau, qui est un intellectuel de gauche, avec qui ils ont des conversations totalement invraisemblables. Ils rencontrent des mafieux, et ils vont comme ça, cheminant. Et puis à la fin, ils ne savent même plus pourquoi ils étaient partis. Ils oublient l'enterrement, et ils rentrent chez eux. Deux jours plus tard, en ayant mangé le corbeau sur la route.
À la façon dont on oublie le début de sa phrase quand on est en son milieu. À la façon dont on peut perdre une idée quand soudain une digression nous emmène ailleurs. À la façon dont une phrase même produit des anacolutes, il y a même des ruptures de construction, on trouve ça chez Proust. Plus grand écrivain de tous les temps, il y a des ruptures de construction dans ses phrases parce qu'il se laisse emporter, parce qu'il est vaincu par ce qu'il voit, voyez, il est soumis à ce qu'il est capable de percevoir. C'est quand même intéressant, Paola, pardonnez-moi de remarquer ça, que vous citiez à deux reprises chez Pasolini, comme chez Nicolas Bouvier au début de l'émission, un père et son fils. Ça fait deux fois que ça revient. Figure privilégiée de l'errance. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, des figures privilégiées de l'errance. Enfin, des couples père-fils qui sont des figures privilégiées de l'errance. Il faudrait s'interroger là-dessus et questionner cela. Mais le fait est que étrange. Ça revient à deux reprises chez vous, là.
Oui, c'est étrange parce qu'en plus, la question que j'étais en train de formuler dans ma tête et que j'allais vous poser, c'était justement, est-ce que, puisqu'on parle de l'errance solitaire, le mot revient dans Virginia Woolf, vision du voyageur solitaire, est-ce que la solitude et comment dire, et l'essence du voyageur, enfin de l'errant, ou est-ce que justement c'est ce couple que maintenant vous avez souligné?
Ça peut être les deux, dans la mesure où les deux ne sont pas forcément contradictoires. Si l'on renvoie la paternité à une fonction officielle, si j'ose dire, au lieu commun selon lequel le père serait en charge du monde extérieur, par exemple, pour son enfant, il est en charge de lui donner à sentir à la fois la loi, mais également aussi le fait que le monde qui entoure cet enfant n'est pas disposé à son intention, justement. Qu'est-ce que la loi, sinon l'apprentissage ? Que le monde n'est pas disposé à mon intention. Je ne suis pas le roi du monde. Je suis, comme tout le monde, soumis à la loi. L'apprentissage de la loi est un apprentissage de l'inhumanité du monde. Apprentissage dont dépend d'ailleurs ma propre liberté. Je suis beaucoup plus libre quand j'admets que je ne le suis pas que quand je veux l'être. La liberté capricieuse d'un enfant gâté, par exemple, est une liberté extraordinairement douloureuse et qui rend en général l'enfant malheureux. La liberté d'un enfant élevé, ça n'est pas la liberté d'un enfant qui a restreint sa liberté ou réduit sa liberté parce qu'on lui a dit que ça, il ne pouvait pas le faire ou que ça, il pouvait le faire, enfin que sa vie était séparée entre l'autorisation et l'interdit. Non, c'est la liberté supérieure de celui qui a renoncé à agir en un sens sur ce qui ne dépend pas de lui. Enseignement qu'il reçoit en apprenant la loi. Je ne suis pas sûr, tout ça pour vous dire que ça n'est pas un hasard si cette grande leçon d'inhumanité des choses, en quoi consistent les discours nietzschéens sur l'errance, s'accommode d'une relation père-fils, d'une relation père-fils, au sens où l'humanité transmise est un apprentissage justement de l'inhumanité du monde, du fait que le monde, comme le dit Nietzsche encore une fois, c'est peut-être la phrase qu'on aura citée le plus souvent, au sens où le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Après tout, à quoi ça sert un père, sinon à apprendre à son enfant que le monde n'est pas là pour lui faire plaisir et qu'il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire s'il veut grandir, justement, des choses en tout cas dont il doit sublimer le désir s'il veut s'élever lui-même. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation, quelque chose de l'ordre de la transmission là-dedans. C'est d'autant plus frappant d'en parler à l'occasion de Nietzsche que le père de Nietzsche lui-même est mort quand il avait 3 ans. Il faut revenir d'ailleurs sur ces circonstances. Vous savez que je suis rétif en général à l'exercice biographique, mais enfin, en l'occurrence, ça tombe assez bien. Nietzsche tenait la main de son père qui était pasteur. Au moment d'entrer dans l'église, il y a une pierre qui est tombée du haut de l'église qui a écrasé son père. Elle aurait pu tomber sur lui. Elle est tombée sur son père. Son père est mort sous ses yeux, écrasé par une pierre tombée de l'église et il lui tenait la main. Peut-être y a-t-il dans cette douleur stupéfiante quelque chose qui, de très loin, vient lui dicter le goût de l'errance. J'en sais rien, ça n'est qu'une hypothèse. Elle n'est recevable que si elle semble cohérente à nos auditeurs.
Enfin, on parlait de solitude et de savoir si l'errant, le vagabond, était solitaire. En tout cas,
De quelle façon il l'est.
En tout cas,
parce qu'il est flanqué de son ombre.
C'est pas grand-chose. C'est ce que j'allais dire. Dans Humain trop humain, dans Le voyageur et son ombre, j'avais un peu ma réponse dès le début. Donc, je vous ai posé la question, mais c'est bien le voyageur et son ombre. Donc, ouais. Il est accompagné de son ombre, qui plus est, parle. Et lui parle.
Lui parle, exactement. C'est son ombre qui lui parle. Alors, en matière de dialogue avec soi-même, on a difficilement fait mieux. Hein. On a rarement fait mieux que dans ce texte. C'est vraiment une des plus jolies, des plus intéressantes variations sur le dialogue de l'âme avec elle-même que Platon théorise à la fin du Thée et Tête. Il n'y a pas de doute. C'est une des plus jolies variations, ce dialogue tellement étrange de cet homme avec son ombre. Oui. Tellement étrange, c'est une scène de théâtre. Et honnêtement, on n'y comprend pas grand-chose.
Non, c'est vrai, c'est déroutant.
C'est complètement déroutant. Les premières phrases qu'on a lues au début de l'émission, c'est très bizarre. On comprend pas grand-chose. Alors, je voudrais faire un anachronisme herméneutique. Pardonnez-moi ces mots barbares. L'anachronisme herméneutique, c'est quoi? C'est de lire ce que Nietzsche dit de l'ombre qui lui parle à la lumière de ce que Nietzsche dit de l'ombre une fois qu'il a théorisé le problème de la mort de Dieu. Parce que dira Nietzsche un peu plus tard, dans Le Gai Savoir, paragraphe 108, après avoir parlé de mort de Dieu, puisque la grande solitude de la terre lancée dans le vide, c'est au paragraphe... la parole de l'insensé qui apprend aux gens que Dieu est mort et que désormais nous sommes rendus à notre nudité et au silence inhumain des choses, c'est, je crois, le paragraphe 120. Mais dans Le Gai Savoir, que dit Nietzsche?
Après que le Bouddha fut mort, on montra encore des siècles durant son ombre dans une caverne. Ombre formidable et effrayante. Dieu est mort. Mais telle est la nature des hommes que, des millénaires durant peut-être, il y aura des cavernes où l'on montrera encore son ombre. Et quant à nous autres, il nous faut vaincre son ombre aussi.
Alors écoutez...
C'est plus les mêmes ombres.
Non, c'est plus les mêmes ombres. Mais comme je ne comprends rien à l'ombre du voyageur et son ombre, je voudrais juste profiter, me servir comme d'un prétexte d'errant, profiter du titre de cette œuvre pour en dire juste quelques mots très rapides sur ce que Nietzsche appelle justement l'ombre de Dieu, et qui viendra plus tard. Alors, c'est anachronique d'en parler ici, parce qu'il ne l'a pas encore théorisé au moment du voyageur et son ombre, mais ça ne l'est pas si on inscrit l'œuvre de Nietzsche malgré tout dans une cohérence qui n'est pas intentionnelle, mais qui fait que les mêmes figures, les mêmes métaphores sont constamment revisitées par lui. Et ici, l'ombre a certes un statut différent, puisqu'elle est la compagne du voyageur, c'est le Robin de Batman, et plus tard, c'est l'ombre portée de la mort de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une fois que Dieu est mort, c'est-à-dire une fois que les hommes se sont avisés de la caducité des valeurs tutélaires sous le régime desquelles ils vivaient. Les hommes, c'est-à-dire des chameaux, qui se mettaient sur le dos des valeurs esclaves, qui, par le fardeau qu'elles faisaient peser sur leurs épaules, entre guillemets, les mettaient en situation d'être à la fois appesantis par ces valeurs inutiles et en même temps soulagés d'avoir à en construire d'autres. Donc cette espèce de monnaie de singe qui veut que... on charge la bourrique pour soulager la bourrique de la difficulté qu'elle aurait à vivre sans savoir pourquoi. Bon, c'est le poids des valeurs esclaves. Puis alors une fois que le chameau rejette tout ça, se transforme en lion, rejette tout ça, eh ben Dieu meurt. Mais il reste l'ombre de Dieu. Et il nous faudra encore tuer son ombre. Et comment Dieu s'y prend-il pour survivre à sa propre mort? Il y a un très bon livre de Didier Franck là-dessus, L'ombre de Dieu. Comment Dieu s'y prend-il? Eh bien, il s'y prend sous la forme du désir de croire, ce qui peut aller jusqu'à ce que Nietzsche appelle le nihilisme chrétien, du sentiment de lutter contre l'illusion en lui opposant la vérité, qui est un sentiment en lui-même illusoire. De la science, Nietzsche est le premier à établir un lien quasi analytique entre la théologie et la science, car la science reconduit le modèle divin de la centralité de l'homme. Et Nietzsche pense à Descartes ici, qui a voulu rompre avec ses prédécesseurs tout en reconduisant exactement le même système et en étant parfaitement christiano-compatible. De la technique, et puis surtout de tous ceux qui croient savoir sans savoir qu'ils croient. Toutes ces figures-là, on pourrait aller jusqu'aux religions séculières, telles que Raymond Aron a désigné le marxisme, par exemple, du XXe siècle. Toutes ces ces modalités de la persistance de l'ombre de Dieu sont également ce qu'il faut vaincre pour Nietzsche. Elles sont l'ombre portée d'une divinité révolue. Et l'enjeu de l'ombre de Dieu, c'est de surmonter le nihilisme qui se confond jusqu'ici avec la tentative de le surmonter. C'est-à-dire, le nihilisme pour Nietzsche, il n'y a pas plus nihiliste que celui qui croit. Puisque le besoin d'une foi puissante, ce n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est la preuve du contraire. Il n'y a pas plus nihiliste que celui qui croit. Et en cela, l'idée mortifère de Dieu trouve son prolongement dans le désir de croire en lui, qui, si Dieu existait, n'aurait aucune raison d'être. Donc, il faut se débarrasser de son ombre. Il y a aussi cette ombre-là chez Nietzsche. Alors, comment est-ce qu'on se débarrasse de cette ombre ? Je propose une piste de sortie que je trouve intéressante. Vous vous souvenez de Chien blanc de Romain Gary, Paola ?
Mm-hmm.
Dans Chien blanc, Romain Gary et Gene Seberg, donc ils sont en Californie, puis c'est les émeutes des années 60, ils habitent une villa, bon, et Gene Seberg reçoit tous les jours dans sa villa la visite des Black Panthers, qui pillent son frigidaire, qui pillent son compte en banque, et qui en plus lui font la morale en la traitant de doigts blanches, bon. Et Gary et Seberg mettent la main sur un chien perdu, Batka, qui est un adorable berger allemand, tendre, mignon, gentil, etc. Bon, il est adorable jusqu'au jour où arrive le type en charge de la piscine, Keys, un gardien noir. Et là, le chien montre les babines et s'apprête à égorger le type si on ne le retient pas. Et ils comprennent l'un et l'autre que ce chien adorable est en fait un chien blanc, c'est-à-dire un chien formé pour tuer les noirs. Voilà, il faut sortir de cela. Il faut tuer cela. Il ne faut pas tuer le chien. Mais il faut tuer dans le chien cette pulsion, cet apprentissage qu'il a reçu. Il faut le débarrasser de cela. Et il y a deux méthodes pour ça. Vous avez la méthode du gardien qui bat, fouette, martyrise le chien jusqu'à le transformer en chien noir, c'est-à-dire en chien dressé à mordre uniquement les blancs. Et vous avez la méthode de Romain Gary qui lui dit... Écoute-moi bien, vieux frère, je ne te demande pas de ne plus mordre les noirs, je te demande seulement de ne pas mordre uniquement les noirs. Et sortir de l'illusion, tuer l'ombre de Dieu, si vous voulez, ça n'est pas passer de chien blanc à chien noir, c'est passer de chien blanc à chien multimordant, si vous voulez. C'est de cette façon que l'on se défait, que l'on se dépouille non seulement de Dieu, si l'on fait de cela une métaphore, mais également de son ombre. On ne sort pas de l'ombre de Dieu, on ne se défait pas de l'ombre de Dieu en opposant à Dieu la croyance inverse. Ça, c'est une contre-vérité, c'est une illusion de la conscience. Non, pour sortir de cela, il faut soi-même modifier radicalement les catégories d'appréhension du monde, c'est-à-dire remplacer le voyage par l'errance. C'est en cela, si vous voulez, que les intuitions qui sont celles du voyageur et son ombre trouvent leur prolongement, trouvent leur ombre portée elle-même dans le gai savoir et au-delà, parce que Nietzsche y élabore déjà, y façonne déjà les outils qui lui permettront de se méfier de toutes ces résurrections divines, de toutes ces formes prises après la mort de Dieu par le désir de croire, et qu'il faut résorber en y jetant une lumière qui en dissipe les ombres.
Pour terminer sur les ombres, en vous écoutant, je feuilletais l'exemplaire de Nicolas Bouvier que j'avais dans les mains, et je tombe sur cette phrase « Derrière le voyageur qui chemine, les ombres s'allongent, le Japon prend de l'ampleur, la Chine est devenue un géant, les graines semées ici et là sans trop d'espoir commencent à porter des fruits inattendus. » Voilà, je trouvais que
Mais ce qui est beau, ce sont les fruits inattendus. Justement. Ce sont les fruits inattendus. C'est le caractère inattendu des fruits. Les fruits sont inattendus, non pas parce qu'on ne s'attendait pas à les voir. Alors, ça peut être des fruits inattendus au sens où on croise des fruits qu'on n'a pas l'habitude de voir, des kakis, des grenades, peu importe. Mais ça peut être des fruits inattendus au sens où ce qui est inattendu, c'est même l'apparition du fruit. Je veux dire, un fruit inattendu, ça peut être une pomme. Ça peut être une pomme à partir du moment où on lui accorde l'attention qu'elle mérite. C'est-à-dire une attention complète, totale, l'attention de Newton qui la regarde tomber, l'attention de Cézanne qui la peint. C'est là que le fruit devient inattendu. La disposition nomade du caractère est une disposition qui consiste à injecter justement de l'inattendu là où il y a de l'attendu, à la façon dont on injecte de l'errance là où il y a une intention de départ, à la façon dont on injecte du nomadisme là où il y a une destination et un voyage organisé Costa Concordia, voyez. On injecte du nomadisme, on injecte une vigilance telle qu'elle rend toute chose imprévisible. Le sommet de la vigilance, c'est d'être capable de se laisser surprendre par tout. J'y pense maintenant, en fait. C'est cela, je crois, que le texte nous enseigne, que le voyageur et son homme nous enseignent. Toutes les perles qui se trouvent dans ce texte, on n'a pas le temps de visiter, mais toutes les perles qui se trouvent dans ce texte tiennent à ce paradoxe. Le sommet de la vigilance, c'est rendre le monde à son imprévisibilité.
Vous avez dit qu'on n'a pas le temps de visiter. Je ne sais pas exactement combien de temps il nous reste, mais je vous confie que j'aimerais quand même qu'on aille du côté de ces galeries de portraits de musiciens qui arrivent de façon assez impromptue.
Justement, de façon impromptue.
De façon impromptue.
Mais il faut entendre le mot d'impromptu au sens que Schubert lui donne.
Exactement.
C'est impromptu. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans une nécessité absolue. C'est la nécessité. Vous savez, c'est la nécessité de la mémoire involontaire. La différence entre la mémoire volontaire et la mémoire involontaire, c'est que la mémoire involontaire, on n'a pas le choix de l'éprouver ou non. La différence entre l'errance et le voyage, c'est que le voyage est une décision dont on prétend avoir la maîtrise. L'errance est une disposition dont on n'a précisément pas la maîtrise. Donc de la même façon que la vigilance rend le monde à son caractère imprévisible, l'errance, c'est pas du n'importe quoi, c'est au contraire la découverte en soi-même de la nécessité dans laquelle un philosophe se trouve d'évoquer telle figure ici plutôt que là-bas et maintenant plutôt que plus tard.
Lorsque l'on n'écoute pas la musique de Bach en connaisseur accompli et sagace du contrepoint et de toutes les manières du style de la fugue, lorsque l'on se prive ainsi d'une véritable jouissance artistique, on l'écoutera tout autrement avec l'état d'esprit d'un homme, pour employer avec Goethe une expression magnifique, qui eût été présent au moment où Dieu créa le monde. C'est-à-dire que l'on sentira alors qu'il y a quelque chose de grand qui est dans son devenir, mais qui n'est pas encore notre grande musique moderne. Elle a déjà vaincu le monde en remportant la victoire sur l'Église, les nationalités et le contrepoint. Dans Bach, il y a encore trop de christianisme cru, de germanisme cru, de scolastique cru. Il se trouve au seuil de la musique européenne, moderne, mais de là, il tourne son regard vers le Moyen Âge. Si la génialité peut s'allier à la nature d'un homme simplement bon, Haydn a possédé cette génialité. Il va jusqu'à la frontière que la moralité trace à l'intelligence. Il ne fait que de la musique qui n'a pas de passé. La musique de Félix Mendelssohn est la musique du bon goût qui prend plaisir à tout ce qu'il y eut autrefois de bien. Elle renvoie toujours à ce qui est derrière elle. Comment pourrait-elle avoir beaucoup de choses devant elle, beaucoup d'avenir? Mais Félix Mendelssohn voulut-il donc avoir de l'avenir? Il possédait une vertu qui est rare parmi les artistes, celle de la reconnaissance sans arrière-pensée. Et c'est là aussi une vertu qui renvoie toujours à ce qui est derrière elle. La barcarolle de Chopin. Presque tous les états d'âme et toutes les conditions de la vie possèdent un seul moment bienheureux. C'est ce moment-là que les bons artistes savent découvrir. Il y en a un, même dans la vie sur la côte. Cette vie si ennuyeuse, si malpropre, si malsaine, qui se déroule dans le voisinage de la populace la plus bruyante et la plus rapace. Ce moment bienheureux, Chopin a su lui prêter des accords dans sa barcarolle, au point que les dieux eux-mêmes pourraient avoir envie de s'étendre dans une barque durant les longs soirs d'été.
Merci Raphaël, merci à tous et merci bien sûr à notre ami Georges Claes. Ainsi s'achève cette émission consacrée au voyageur et son ombre. Mais rien ne vous empêche, chers auditeurs, de continuer à errer au rythme de la musique de Bach ou de Chopin et pourquoi pas d'un morceau de Tom Waits. Quant à nous, on ne se retrouve pas avant 6 longues semaines en raison du sempiternel carême de France Culture. Et à notre retour, nous vous parlerons des caractères du sympathique Jean de la Bruyère. Mais Dieu soit loué, les nouveaux chemins de la connaissance animés par Adèle Van Rett continuent et ils vous parleront tout au long de la semaine prochaine de la mystérieuse âme russe. Il est également entre vos mains de vous procurer le dernier numéro de Philo Magazine qui consacre un dossier à la crise de l'attention, mais également quelques pages sur les 1000 visages de David Bowie. Et plus d'une centaine d'émissions miraculeusement disponibles pour vous, chers auditeurs, sur le site de Raphaël Antoven, il serait dommage de passer à côté. « 17h sur France Culture, dans un instant, l'Atelier du Pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider. »